Merci.
Là, bon, on va démarrer tout de suite, donc 21 minutes, c'est vite passé. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'essayer de répondre à cette question, qui n'est pas une question simple. Et je vais entrer tout de suite dans la difficulté, si vous voulez, peut-être, enfin, dans une approche qui va souligner les difficultés de cette question. Mon approche sera plutôt philosophique et sociologique, hein, je la situe tout de suite. Donc ça va être parfois peut-être un petit peu, comment dire, étonnant, parce que les concepts philosophiques ou les concepts sociologiques sont parfois un petit peu, nous prennent à rebrousse-poil. Hein, donc on pourra échanger ensuite par rapport à ce que j'ai avancé. Mais on va démarrer comme dans ce cadre-là, vous voyez, dans ce cadre théorique-là, pour penser cette question de bien vivre sa scolarité ou d'aider son enfant à bien vivre sa scolarité. Alors pour démarrer, je vais partir du mot scolarité et du mot école finalement, parce que le mot scolarité, ça renvoie au mot école. Et je voudrais souligner le fait que le mot école a un sens qu'on oublie souvent, une étymologie très forte. Le mot école, il vient du mot grec scolé, avec lequel on a fait école, scolaire, scolastique aussi. Et ce mot-là, il signifie, alors attention, il signifie loisir. Il signifie loisir au singulier. Attention au singulier, c'est pas les loisirs, c'est le loisir. C'est-à-dire que l'école, c'est un lieu séparé. Étymologiquement, c'est pas forcément la réalité, hein, là je parle du concept. Étymologiquement, c'est un lieu, si vous voulez, séparé des urgences vitales. Les Grecs, parce que c'est un mot grec, quand ils parlaient du loisir au singulier, ils l'entendaient comme le fait d'échapper à la nécessité de travailler. Travailler au sens de produire ce qui est nécessaire pour la vie, hein, au sens des urgences vitales. Vous voyez, les êtres humains, s'ils n'arrivent pas à produire leur vie, hein, à produire de quoi manger, de quoi se laver, de quoi se loger. Ils connaissent des souffrances terribles, la faim, le froid, la saleté, etc. Et donc, le loisir, c'est ce qui s'oppose à ce travail qui permet de nourrir les exigences vitales. Et donc, il y a dans l'idée d'école, vous voyez, cette idée d'un temps privilégié, d'un temps séparé du temps habituel des humains, parce que le fait de produire sa vie, de travailler, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et donc, l'école, c'est le lieu où les enfants, pas partout sur la Terre, parce que justement, il y a des endroits où les urgences vitales sont permanentes, mais quand on arrive à faire des écoles, ça veut dire qu'on a su créer assez de richesses pour offrir aux enfants ce temps de loisir, ce temps... Vous voyez, les Grecs vont entendre ce temps de loisir comme un temps d'étude, comme un temps où, étant séparé des nécessités vitales, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans les nécessités sociales, de travail, de relations aux autres pour gagner sa vie, pour s'arranger entre eux, pour faire des affaires. Hein. Et donc, c'est un lieu, de ce point de vue-là, consacré à l'étude. C'est pour ça que ce n'est pas du tout la même chose que les loisirs, vous voyez, les loisirs qui sont du côté du divertissement. Chez les Grecs, le loisir, c'est bien l'idée d'un temps où on va pouvoir se retrouver seul et avec d'autres pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir découvrir ce que les urgences vitales ne nous permettent pas toujours de découvrir, pour avoir du temps, finalement. Voilà. Hein, pour avoir ce temps de l'étude. Et donc, vous voyez, tout de suite, les choses sont, si j'ose dire, un petit peu, comment dire, difficiles, peut-être, parce que aider son enfant à mieux vivre sa scolarité, c'est l'aider à entrer dans ce temps de l'étude, ce temps de la gratuité de l'étude, où on n'est pas sous la pression ou sous la demande de ce qui se passe ailleurs ou de ce qui se passe dans la société. Il y a une rupture école-société. Hein, dans la tradition philosophique, on pense souvent l'école comme un lieu séparé de la société. Et vous voyez, tout de suite, ça pose, à mon avis, une difficulté ou une tension, parce qu'évidemment, les parents, quand ils mettent leurs enfants à l'école, ou leurs enfants s'ils n'en ont qu'un, ils sont souvent dans la pression sociale ou dans la pression, dans l'amour de leurs enfants. Et donc, l'amour est parfois, craintif. Et on souhaite beaucoup de bonheur à son enfant. Et on a peur, par exemple, qu'ils connaissent la souffrance du chômage, le fait de ne pas pouvoir gagner sa vie plus tard. Et donc, on attend de l'école, peut-être, en tant que parent, quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'est l'école. C'est-à-dire, on attend d'elle qu'elle évite cet enfer moderne, qu'est l'exclusion sociale, vous voyez, le chômage. Et donc, on voudrait que l'école soit un lieu de préparation et d'entraînement aux exigences de l'environnement social et humain dans lequel on est, et qu'elle prépare nos enfants à la vie, hein, et donc au travail. Hein. Et là, il y a une tension très forte, parce que là où il faudrait, si j'ose dire, que l'enfant développe ce goût du loisir, ce goût de l'étude, finalement, quand on fait des mathématiques, ou quand on fait de la métricité, de la maternelle, ou quand on lit des histoires à l'école, on le fait, ou on peut le faire, si on est dans cette vision-là de l'école, vous voyez, de façon gratuite. On n'attend pas des résultats immédiats. Ce qui compte, c'est que l'enfant, en lisant une histoire, un conte, réfléchissent avec ses camarades et avec le maître ou la maîtresse sur des enjeux humains, par exemple qu'est-ce que c'est que la peur, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la solitude, hein. Vous prenez les contes sont pleins de ces histoires-là, donc réfléchir à des choses comme ça, mais y réfléchir en prenant son temps, y réfléchir en n'étant pas dans la recherche immédiate de la réponse, développer, si vous voulez, une culture, un loisir studieux qui permet d'approfondir la réflexion et de découvrir des choses qui ne sont pas utiles immédiatement. Même chose en mathématiques, hein, et je choisis pas les mathématiques tout à fait au hasard, parce que vous savez que dans l'école française actuelle, c'est devenu le critère absolu de sélection, et les mathématiques, c'est peut-être plus assez ou pas assez un endroit où justement on a plaisir à se confronter à la nécessité des raisons, à la nécessité démonstrative, aux exigences de la rigueur intellectuelle, mais plutôt parfois ça devient une matière sélective, et donc les élèves font des maths pour obtenir le diplôme et pour avoir la bonne note qui leur ouvrira la porte de la sacro-sainte première S, et donc du sacro-saint bac S, etc. etc. Donc il y a une tension très forte, là, vous voyez, entre l'attente des familles et ce qu'est l'école, qu'il faut peut-être mesurer pour voir les difficultés auxquelles on est confronté quand on est parent, hein, ou quand on est enseignant aussi, hein, parce que cette demande sociale de rentabilité vis-à-vis de l'école, elle n'est pas seulement sur les parents, elle est aussi sur les enseignants et sur l'institution, et donc il y a là une difficulté. Alors comment travailler cette difficulté, si vous voulez, ou comment aider son enfant à bien vivre sa scolarité ? Peut-être justement en lui expliquant un peu ça. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école ? Et c'est ça qui est intéressant. Et non pas quelle bonne note tu as eue, ou est-ce que tu as réussi ? La question qu'on peut poser le soir à son enfant quand il revient de l'école, c'est s'intéresser à ce qu'il a appris. Parce que c'est forcément intéressant, si j'ose dire. C'est le savoir humain, c'est les œuvres humaines, même modestes quand on est en maternelle ou au CP. Mais n'empêche, une belle histoire, c'est pas rien. Un beau conte, une comptine, une chanson. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut prendre le temps de partager avec son enfant, si du moins il veut bien en parler, j'y reviendrai là-dessus. Mais il y a bien cette posture du parent qui doit savoir, à mon avis, s'il veut vraiment aider son enfant à bien vivre sa scolarité, qu'à l'école, son enfant est entré dans un monde qui n'est peut-être pas toujours celui qu'on croit ou qu'on imagine. Vous voyez, ce n'est pas un lieu voué fondamentalement à la réussite sociale des enfants. C'est un lieu voué à l'apprentissage, à l'étude, au bonheur d'apprendre. Vous voyez, il y a une joie d'apprendre, il y a un bonheur d'apprendre, il y a un bonheur de penser, d'écrire, de chercher, de faire des maths, de faire de la grammaire. Vous voyez, quand on est enseignant, la grammaire, c'est génial. Hein, et c'est génial parce que c'est génial en soi. C'est génial de réfléchir sur le langage, et la langue française, et de voir comment ça marche. C'est passionnant, c'est un jeu intellectuel. Vous voyez, hein, c'est comme, j'allais dire, si je prenais une métaphore, c'est comme le plaisir qu'a le mécanicien à démonter le moteur de la voiture, si vous voulez, ou l'amateur de mécanique. Hein, le langage, c'est une merveilleuse mécanique, tout aussi complexe, voire plus complexe qu'un moteur. Et donc, il y a un bonheur comme ça d'apprendre et de chercher qu'il s'agit de cultiver. Et donc, si les parents ont compris que c'était ça l'école, il me semble que s'ils sont dans cette posture-là, ils peuvent peut-être aider l'enfant à mieux vivre sa scolarité, c'est-à-dire le préparer à ce drôle de monde, vous voyez. À ce drôle de monde qu'est l'école, où on est dans le plaisir de l'étude, et non pas dans l'exigence de la rentabilité ou de la réussite immédiate. Il y a là un enjeu fort. Si les parents ont compris ça, ils peuvent peut-être partager ou ouvrir leur enfant à cette dimension-là fondamentale qu'est l'école. Hein, donc c'est peut-être le premier point que je voulais souligner, cette posture parentale, quand on sait ce qu'est l'école, et peut-être qu'il y a là aussi un devoir des enseignants d'expliquer aux parents ce qu'est l'école, vous voyez aussi, de leur dire, ici on vient pour apprendre, hein, on vient pour concevoir des choses, vous voyez. Le mot concevoir, qui est un mot très beau d'ailleurs, hein, pour les parents aussi, parce qu'ils ont conçu un enfant aussi, les parents, à deux, hein. Et donc concevoir quelque chose, c'est aussi quelque chose qu'on fait toujours à plusieurs, enfin pour un couple à deux, hein, pour concevoir un enfant, mais le savoir, ça se conçoit à plusieurs. La classe, c'est un lieu, c'est un collectif de pensée, hein, et même chez les tout-petits, hein, les petits, ça pense, ça cherche, ça invente, et essayer d'expliquer ça aux enfants, les maîtres et les maîtresses l'expliquent, si les parents peuvent le dire, vous voyez, ça peut aider, ça peut permettre à l'enfant de bien vivre sa scolarité. Alors, si je développe un peu cette idée-là avec des idées un petit peu connexes, si vous voulez, ou pour vous dire ça, si je reviens sur l'idée d'avant, excusez-moi, concevoir, c'est pas la même chose que faire. Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ? J'allais dire, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais je suis pas sûr qu'à l'école, on fasse des choses. Vous voyez ? Faire, c'est produire, à l'école, une fois de plus, on pense, on conçoit, et parfois c'est un peu décevant en termes de résultats, vous voyez. Il n'y a pas des... Ben voilà, on a fait des phrases, on a parlé. Un peu comme nous ce soir, on essaie de concevoir des choses, vous voyez. Ça ne laisse pas des traces magnifiques. C'est pas beau comme un immeuble ou beau comme une voiture, c'est pas visible, hein, vous voyez. C'est parfois un petit résumé. Mais n'empêche, derrière ce petit résumé d'histoire ou de grammaire, il y a tout un travail, il y a toute une conception. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans le faire. Et donc, c'est parfois décevant et... Et là aussi, si les parents peuvent aider leurs enfants, c'est à, peut-être en développant aussi à la maison des moments où on conçoit ensemble des choses, on parle, on partage des choses, on s'émerveille d'un mot, de la beauté du monde ou de sa laideur, mais en tout cas, on partage aussi peut-être en famille des moments de loisirs, comme ça, au singulier, où on prend le temps de lire des choses, des albums, des histoires, de regarder des livres, des choses qui nous entourent, de les penser et de chercher à comprendre comment elles marchent, vous voyez. Si on développe ce genre de choses, hein, c'est pas forcément en faisant de la grammaire le soir avec ses enfants qu'on les aide, ça peut être très bien s'il y a besoin, mais c'est plutôt au maître de faire ça. Mais par contre, développer la posture scolaire, la posture de scolastique, on pourrait dire, Pierre Bourdieu emploie le mot scolastique quand il parle de l'école, vous voyez, cette posture où on a le droit de faire des hypothèses, on a le droit de chercher, gratuitement, on a le droit de se tromper. Voyez, on a le droit d'inventer. Hein. Et ça va de l'école à l'université. Hein. Un scientifique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait des hypothèses, qui cherche. Et il fait ça aussi en collectif, hein, avec des collègues, dans des séminaires de recherche, etc. Donc, de la maternelle à la science la plus aboutie, voyez, on est toujours dans cette idée d'étude, hein, gratuite. Voyez. Et ça, c'est très important. Alors, si on devait développer une ou deux idées connexes, disais-je, peut-être à côté de ça, il y a évidemment aussi... L'idée que, comment dire, il y a dans l'école, à cause peut-être de cette séparation que j'ai évoquée, il y a la dimension de double vie de l'enfant, qu'il faut savoir prendre en compte et qui apparaît à travers le mot élève d'ailleurs. Hein, j'allais dire, alors c'est paradoxal, c'est un objet de débat ou de discussion, mais un enfant, quand il rentre à l'école, il devient un élève. Et comme le disait un psychanalyste, je crois, la spécificité d'un élève, là je vais vous embêter en vous disant ça, c'est qu'il n'a pas de parents. Vous voyez, il y a pas la notion de parent d'élève est presque contradictoire, si vous voulez, dans les termes. Puisque précisément, un enfant a des parents. Ses parents l'aiment, s'occupent de lui, mais au moment où ils le mettent à l'école, ses parents acceptent qu'il devienne un élève, et donc acceptent un petit peu de le perdre aussi. C'est-à-dire qu'il va mener une vie qui va nous échapper en tant que parents. Et donc, c'est pas rien d'accepter qu'un enfant vive des moments épanouissants, des moments forts, des moments difficiles aussi parfois, et on ne sera pas là pour l'aider ou le consoler. Et d'autres adultes prendront le relais, pas à notre manière, mais n'empêche, il y a cette acceptation, hein, c'est le philosophe allemand Hegel qui avait développé ça de façon très nette, hein, il dit, au moment où il entre à l'école, l'enfant connaît cette vie double, de quelqu'un qui a la vie de la famille, mais a aussi sa vie en dehors de la famille, dans une autre institution. Et là, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus, c'est très important, parce que nous, adultes aussi, on connaît ça, je veux dire. Ça commence à l'école, mais chez les adultes, c'est encore plus fort. Il y a la vie familiale et la vie professionnelle. Et je ne suis pas sûr qu'on aimerait beaucoup que notre maman vienne à l'école, dans notre travail, voir si tout se passe bien, ou que notre conjoint mette le nez aussi dans ce qu'on fait dans notre milieu professionnel. Et l'enfant, il a besoin du soutien de ses parents quand il rentre, il a peut-être besoin, alors après on pourra en discuter, du soutien de ses parents quand il est dans l'école, Mais il y a aussi cette double vie, et moi j'ai, enfin, je connais des enfants qui, par exemple, le soir, quand ils rentrent de l'école, faut pas trop les... ils disent pas grand-chose, c'est leur vie. Et ils signifient clairement à leurs parents que c'est leur vie, ils diront ce qu'ils ont envie de dire, ils diront pas tout. Vous voyez, et je pense aussi, ils ont bien raison, ils disent pas tout à l'école aussi de ce qu'ils vivent à la maison. Des drames familiaux, des joies, des difficultés, parfois ils en parlent, parfois pas. C'est eux qui décident. Comme nous, dans notre vie professionnelle, vous voyez, on ne dit pas tout de ce qui se passe à la maison, mais dans notre vie familiale, on ne dit pas tout de ce qui se passe au travail. Et ça, ils commencent ce chemin-là, cette double vie qui est la vie des citoyens modernes, si vous voulez. Hein, en Europe, il y a longtemps qu'on a pratiqué cette coupure entre le... Enfin, longtemps, c'est pas si longtemps, hein, mais il y a peut-être un siècle ou deux que la communauté familiale ne règne pas sur tout, hein, et qu'il y a une indépendance de la vie professionnelle. Et donc, accepter que son enfant parte. Je me rappelle d'un très beau livre, un livre pour enfants d'ailleurs, qui s'appelait « La rentrée des mamans », je ne l'ai pas amené, il est peut-être ici, mais c'est un vieux livre, un vieil album, et c'est une maman qui est très inquiète, parce que elle pleure beaucoup parce que son enfant va à l'école, hein, et son enfant, on voit bien sur les images, il y va tout gaillard, si vous voulez. Hein, et elle dit « Mais t'es sûr que tu veux y aller ?»« Hein, mais oui, je veux y aller, je veux devenir, je veux avoir des camarades, je veux entrer dans ce monde où je ne suis plus à la maison. » Et à la fin, ça se termine très bien, tout le monde est content, l'enfant et la maman. Mais vous voyez, cette capacité à lâcher l'enfant et à se réjouir de ce qu'il devient autre aussi, vous voyez, accepter que son enfant devienne autre, nous échappe. C'est ça l'amour aussi, hein, dans sa forme la plus élevée, c'est accepter que l'autre soit sujet et se réjouir de son autonomie, vous voyez. Et si on conçoit des enfants dans les sociétés modernes, me semble-t-il, c'est justement pour accepter qu'ils quittent la maison un jour, hein, et qu'ils vivent une vie qui sera plus la nôtre. Là, il ne me reste que 5 minutes. Donc voilà, sur cette dimension d'amour et de lâchage des enfants, qui n'est pas contradictoire, vous voyez. Aimer son enfant, c'est le lâcher. L'autre point là-dessus, le lâcher, ça ne veut pas dire l'abandonner par rapport à ça. Je me rappelle, là aussi, c'est un auteur français beaucoup plus récent, un pédagogue, Chauveau, qui a travaillé sur la lecture, qui disait que par rapport à la lecture, par exemple, ce point, cette classe de CP, qui nous inquiète tant en tant que parents, il disait qu'il faut être supporteur de son enfant. C'est-à-dire, souvent, quand il rentre, il faut l'accompagner, il faut l'encourager, faut pas forcer, on n'est pas sur le terrain, si vous voulez. C'est pas les parents qui jouent le match, c'est l'enseignant et la classe qui apprennent à lire, mais que les parents soient en position de supporter, soutiennent leur enfant, qu'est-ce que tu sais lire ? Oh, c'est bien, même si c'est dire qu'un petit bout de mot, super. Ah, dis donc, fais voir comment t'écris, et même si c'est pas très bien écrit, bravo, vous voyez. Qu'on soit en position de supporter, qu'on le rassure sur ses compétences. Les maîtres et les maîtresses font ça. Les maîtres sont aussi parfois dans l'exigence, hein, Dieu merci, mais aussi dans la bienveillance. Les parents, j'allais dire, ils ont peut-être intérêt à être beaucoup dans la bienveillance par rapport à ce qui s'apprend à l'école. Et c'est pas eux qui font le travail du maître, vous voyez, ou de la maîtresse. Hein. Par contre, rassurer, encourager, saluer ce qui a été appris, saluer ce que l'enfant sait faire. Vous voyez, cette notion de salut. Et dire à l'enfant qu'il a progressé, qu'il a grandi. Parfois peut-être aussi, lui, si on est déçu, mais il ne faut pas aller trop loin, je pense, quand même, là-dessus. Jouer la sécurité et le fait qu'il va être... comment dire ? C'est Hegel que je citais tout à l'heure qui disait ça. Quand un enfant entre à l'école, vous voyez, il n'est plus aimé pour lui-même, il est aimé pour ce qu'il fait. Comme dans la vie sociale. Vous voyez. Hein? L'enfant, quand vous allez voir votre médecin, vous vous attendez pas qu'il... Vous n'êtes pas là pour l'aimer, vous attendez un service précis de lui. Bah, le maître et la maîtresse, ils attendent de l'enfant un travail assez précis. Ils sont patients, mais quand même, il y a une exigence. Tandis qu'en famille, l'enfant est aimé pour lui-même. Vous voyez. J'allais dire presque quoi qu'il fasse. Quand on aime son enfant, on l'aime jusqu'au bout. Voyez. Donc la relation de filiation, c'est une relation de... On ne juge pas l'enfant sur ses capacités. Hein. On le juge sur... On ne juge même pas, d'ailleurs, si j'ose dire. Mais voilà, il y a cette... Et donc, ces places-là, la place de l'exigence, ce n'est pas forcément aux parents de la tenir par rapport au scolaire. C'est peut-être à l'école de l'assumer, plus qu'aux parents. Donc voilà, par rapport à ces éléments-là que je voulais souligner... J'ai pas eu le temps de tout développer, je voulais juste revenir sur la dimension de loisirs que j'évoquais tout à l'heure, sur la dimension d'études. Je voulais juste souligner pour finir que, comment dire, cette dimension d'études, elle a été conceptualisée par certains à travers la notion de c'est un petit peu difficile, là c'est de la sociologie plutôt, à travers la notion de secondarisation. C'est-à-dire quand on est à l'école, on quitte l'univers du sens quotidien. Voyez, par exemple, le langage à l'école, dès la moyenne section, peut-être parfois même dès la petite section, devient un objet d'étude. Voyez, dans la vie normale, le langage, c'est fait pour communiquer. Ses désirs, ses peurs, ses besoins, son amitié, voyez, c'est fait pour parler. Passe-moi le sel, je t'aime, où vas-tu, qu'est-ce que tu fais, voyez, on se parle entre nous. À l'école, il se passe quelque chose de très bizarre et ça commence très tôt. Le langage est secondarisé, on n'est plus dans le sémantique, on est dans le formel. Comment s'est fait ce truc-là? Et ça, c'est quelque chose aussi, je répète, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à saisir, mais il faut bien voir qu'à l'école, c'est ça qui est au cœur du métier scolaire. Et c'est vrai que, une fois de plus, c'est peut-être pas en famille qu'on peut faire ça si on n'aime pas faire ça ou si on n'a pas l'habitude. Hein. Toutes les familles ne sont pas des familles d'enseignants, d'universitaires ou de gens qui sont passés à travers ces processus de secondarisation. Hein. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, si les parents peuvent parfois jouer un peu avec les mots, regarder comment est fait le langage avec leurs enfants, de façon douce, vous voyez. Hein, tiens, j'entends. Dans enfant, j'entends comme dans éléphant. Enfin, ça, c'est marrant, vous voyez. À l'école, on met les enfants avec les éléphants. Pourtant, on ne met pas les éléphants avec des rhinocéros. On peut aussi les mettre ensemble. Mais on met les mots ensemble parce qu'ils sonnent pareil. Donc on quitte le registre du sens, vous voyez, pour être sur le registre, par exemple, uniquement phonologique en maternelle. Et il y a des enfants qui ne sont pas du tout préparés à ça. Hein. Et il y en a d'autres qui sont terriblement préparés, parce qu'en famille, ça se fait, on joue avec les mots. Et donc, peut-être que si on veut aider aussi de façon très joueuse, hein, c'est un plaisir de faire ça, de mettre ensemble des sons. Il faut le faire du côté du plaisir, et de la tendresse et du jeu. Hein. L'école, c'est un jeu. Voilà ça que je vous dis finalement. C'est un loisir, c'est-à-dire que c'est un jeu. Hein. Et donc, si on peut jouer aussi avec ses enfants comme ça, de façon décontractée, émerveillée et amusée sur le langage, il n'y a rien de plus, me semble-t-il, de plus merveilleux pour aider son enfant, parce qu'on lui donne ce que Bourdieu appelait un habitus, vous voyez, une façon d'être, hein, qui fait que l'enfant n'est pas perdu quand il arrive à l'école. Les enseignants doivent expliquer aux enfants qui sont entrés dans un drôle de monde, où on va mettre les enfants avec les éléphants. Mais parfois, nous, les enseignants, on oublie de le dire tellement on est là-dedans de façon spontanée. Et du coup, il y a des enfants qui sont perdus parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ils ne comprennent pas qu'ils sont entrés dans un monde de, j'allais dire, dans un monde de fous, l'école, où on met les enfants avec les éléphants, ou un monde de jeu, vous voyez, et ils ne comprennent pas le sens du jeu. Et du coup, ils ne peuvent pas jouer. Et du coup, ils s'ennuient et ça va de mal en pire. Voilà. Je ne sais pas si ça tombe bien.
Parfait.
Voilà. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir dit tout ce que je voulais dire, mais...